Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, pour arrêter de se faire exploiter, la faute.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés.
Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Canu et c'est le Canu Info du lundi 18 avril.
Tout à fait, et puis à l'international, tout de suite avec les titres d'ailleurs, à l'international on parlera d'une nouvelle offensive israélienne en Cisjordanie. Pour ensuite parler de la Grande-Bretagne où Boris Johnson veut externaliser les migrants au Rwanda. Et enfin on ira en Irak pour parler d'une nouvelle attaque de la Turquie contre le PKK.
Et puis au national, on fera un petit tour des manifs et des violences policières à Paris et des facs mobilisées contre l'extrême droite. Et ensuite, on parlera d'un cas emblématique de mort au travail avec le service des pompiers de l'Isère qui est reconnu responsable du suicide d'un pompier.
Et on finira l'émission, petite émission aujourd'hui, par un reportage sur un rassemblement qui a lieu mercredi organisé par Kabiria. Et on commence l'émission avec les traditionnels brèves.
Oui, on commence par Montpellier, ça s'est passé mardi dernier. Un retraité de la police nationale a agressé deux lycéennes voilées. Alors selon lui, elles auraient menacé de tuer son chien. Mais selon une vidéo qui a été postée en ligne, ça a surtout commencé par lui-même passant devant les lycéennes et disant à haute voix que l'islam était la religion la plus con du monde. Celle-ci lui demande des explications et il y répond alors sautant dessus. Il a arraché le voile de l'une et tenté de faire de même sur l'autre, tout en les malmenant, leur enlevant un téléphone mobile des mains pour le jeter au sol et puis il finit par s'enfuir. Et pour le coup, sur la vidéo, c'est le chien qui aboie sur les lycéennes qui semble plutôt apeuré debout sur un banc. Elles ont porté plainte, lui aussi d'ailleurs, bien que ce soit de toute évidence, lui le gros raciste de l'histoire.
Et l'extrême droite toujours, malheureusement, ces dernières nuits, des émeutes ont éclaté en Suède, alors que le groupuscule d'extrême droite danois Stram Kurs, qui signifie « ligne dure », fondé en 2017, organisait des manifestations racistes et islamophobes dans différentes villes du pays. Donc il y a bien eu des contre-manifestations contre ces manifestations racistes, et des affrontements ont eu lieu entre manifestants d'extrême droite, contre-manifestants et la police, à Stockholm, mais aussi dans d'autres villes comme Norrköping, Linköping, Örebro. 12 policiers ont été blessés et 4 véhicules de police brûlés. Lors d'une manifestation qui était prévue dans une ville et déplacée dans une autre par la police pour protéger les fachos d'une contre-manifestation samedi, le leader de ce groupuscule Ligne Dure, qui s'appelle Rasmus Paludan, a appelé à manifester en brûlant des Corans. En Suède, comme ailleurs, on soutient celles et ceux qui s'opposent à l'extrême droite et à ses discours anti-immigration et anti-islam nauséabonds.
Et puisqu'on parle de l'extrême droite, eh ben, on y retourne. Donc à Montpellier encore, le bar Le Barricade, hein, qui est un bar plus ou moins militant, a été attaqué jeudi soir par une quinzaine de militants fascistes cagoulés qui ont utilisé du gaz lacrymogène puis qui se sont mis à défoncer la vitrine. Déjà en décembre, hein, ce bar avait été attaqué. Des FAF avaient attaqué plusieurs personnes qui fumaient à l'extérieur en les frappant et en leur jetant des bouteilles en verre. Ces attaques en France sont de plus en plus nombreuses et malheureusement, que ce soit avec Macron ou Le Pen, les milices d'extrême droite vont continuer et amplifier leurs agressions à nous, donc de les arrêter et de les en empêcher.
Et après les brèves, on passe à l'international. International. International. Et on parle d'Israël donc.
Et on parle d'Israël et de sa nouvelle offensive en Cisjordanie, où se télescope au même moment le mois saint du Ramadan, la Pâque chrétienne et la Pâque juive, donc notamment à Jérusalem. L'État d'Israël, État colonial par excellence, a décidé de passer une nouvelle fois l'offensive contre les Palestiniens et Palestiniennes afin de les empêcher de se réunir. Dès le milieu de semaine dernière, l'occupation militaire était mise en place autour des lieux saints musulmans à Jérusalem-Est. Alors pour rappel ou information, Jérusalem-Est, c'est la partie de la ville située à l'est de la ligne de démarcation entre l'État d'Israël et les forces arabes issues de l'armistice de la guerre israélo-arabe de 1948-49. Territoire sous contrôle israélien depuis la guerre des six jours de 1967. Territoire où se situe le mur des Lamentations, le Saint-Sépulcre, la mosquée Al-Aqsa et l'esplanade des mosquées. Territoire sans cesse attaqué, morcelé, colonisé par l'État d'Israël, dans un objectif que tout le monde connaît, en expulser définitivement les Palestiniens et les Palestiniennes. Tout ça, bien sûr, allant à l'encontre des différents accords de paix menés depuis 1967 par les États-Unis, l'ONU ou autres joyeuseries. Bref, c'est donc là, au croisement de ces lieux saints de plusieurs religions, que l'armée israélienne a décidé de passer une nouvelle fois à l'offensive. Vendredi, des affrontements ont éclaté sur l'esplanade des mosquées occupées. Et comme d'habitude, les forces sont bien inégales entre la 17e armée mondiale et des hommes, des femmes qui n'ont que des cailloux pour se défendre. Rien que pour vendredi, plusieurs centaines de blessés côté palestinien, idem côté interpellation. On voit sur certaines vidéos l'armée israélienne littéralement attaquer la mosquée Al-Aqsa, où s'étaient réfugiés plusieurs centaines de Palestiniens et Palestiniennes, tout ça en plein milieu du Ramadan. Grenades, lacrymos, balles réelles sont tirées à l'intérieur de la mosquée. À ce moment-là, il y a eu au moins 5 morts. Après l'horreur de cette attaque, l'armée a même empêché les ambulances d'accéder aux blessés. Pour le week-end de Pâques, 5000 militaires israéliens ont été déployés en Cisjordanie, ce qui correspond à l'une des mobilisations militaires les plus importantes de ces 10 dernières années. Les contingents militaires sont massifs autour des colonies israéliennes, imposées de force au territoire palestinien depuis 1967. Les routes sont aujourd'hui bouclées. Depuis le 22 mars, ces opérations ont fait au moins 25 morts côté palestinien. Ce matin encore, des opérations d'interpellation menées par l'armée ont fait de nouveaux blessés graves, notamment près de Jénine, au nord de la Cisjordanie occupée. Le gouvernement de coalition, qui va de la gauche sioniste à l'extrême droite la plus odieuse qui soit, menée par le très conservateur et homme d'affaires israélien Naftali Bennett, à la tête du pays depuis juin 2021, est évidemment à la manœuvre. Dans la droite lignée de son prédécesseur et néanmoins allié Benjamin Netanyahou, le gouvernement a délivré une nouvelle fois une liberté d'action totale aux forces de répression, se traduisant par une série d'attaques et de raids contre des villes et des villages palestiniens de Cisjordanie occupés. Et là, on les entend moins, les Macron, les Biden et autres dirigeants de l'OTAN. Quand c'est l'ami israélien, quand c'est l'ami Arabie Saoudite ou l'Égypte, par exemple, qui commettent des exactions atroces, personne ne bronche, comme d'habitude. Ah si, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui s'est déclaré, je cite, « horrifié par le nombre de victimes, dont des femmes et des enfants ». Il a donc exigé, dites-vous bien, exigé le maximum de retenue de la part des forces israéliennes. Naftali Bennett en tremble encore. Ou pas. L'année dernière, une vague d'attaques menée par l'armée israélienne à Gaza avait provoqué la mort de 250 Palestiniens et Palestiniennes, très majoritairement, bien sûr, des civils, dans un silence quasi total. À quand la fin de l'impunité de l'État d'Israël. Et bien sûr, nous, on exprime notre solidarité la plus totale avec la lutte du peuple palestinien, que ce soit là-bas ou ici en France.
Et on enchaîne à l'international avec le Royaume-Uni qui a décidé d'externaliser l'accueil, si on peut l'appeler comme ça, des migrants au Rwanda.
Oui, c'est digne d'un scénario dystopique, mais c'est bien réel. Nous avons appris jeudi dernier que le Rwanda a signé un accord avec le Royaume-Uni pour accueillir sur son sol des migrants et demandeurs d'asile arrivés de façon dite illégale au Royaume-Uni. L'accord avec le Rwanda, qui sera financé par le Royaume-Uni a priori à hauteur de 120 millions de livres, soit 144 millions d'euros, prévoit que les migrants, dont ni les nationalités ni les conditions d'arrivée ne sont précisées, soient intégrés dans les communautés à travers le pays, selon le communiqué publié par le Rwanda. Officiellement, et comme toujours quand il s'agit de mesures autoritaires anti-immigration, il s'agirait de dissuader la traversée de la Manche. Il est fort probable que cela ne fonctionne pas encore une fois, comme toujours pour les mesures de dissuasion dans ce domaine. On ne le répète apparemment pas assez, mais les personnes qui décident de quitter leur pays et entreprennent un voyage souvent long, coûteux et dangereux le font parce qu'ils et elles ont de bonnes raisons de le faire, que ce soit pour fuir la guerre ou la misère. Les conditions précises de mise en place de l'accord sont pour moi un peu floues, mais il s'agit très clairement de déplacer des candidats à l'asile en Grande-Bretagne vers un pays qu'ils n'ont pas choisi, et ce, sans examiner au préalable une quelconque demande de leur part. C'est le Rwanda qui examinera leur candidature et qui l'examinera pour une installation au Rwanda, donc. Et on ne sait pas sur quels critères le Rwanda examinera les candidatures. Il ne s'agit même pas d'une première sur le principe. Il y avait eu le camp de rétention d'immigrants installé en Australie, par l'Australie, pardon, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui a fini par fermer l'an dernier. Et en 2013, Israël avait signé un accord secret avec l'Ouganda et déjà avec le Rwanda pour accueillir des réfugiés soudanais et érythréens qu'ils ne voulaient pas garder. À l'époque, des rapports d'ONG avaient montré que les promesses faites sur l'accueil n'avaient pas été tenues, au prix de manquements aux droits de l'homme, sans surprise. Apparemment, dans la presse britannique, on évoque des risques de mutinerie de la part des fonctionnaires qui seraient amenés à effectuer ces tâches administratives de déplacement des migrants, et on souhaite fortement que ce soit le cas. On note aussi que c'est Priti Patel, ministre de l'Intérieur britannique, qui a signé l'accord au Rwanda. Elle descend d'un grand-père originaire de Gujarat, en Inde, qui a immigré en Ouganda, puis au Royaume-Uni, où elle est née. Aujourd'hui, c'est elle donc qui se charge de fermer la porte du pays aux réfugiés. Mais pas à tous les réfugiés, puisque les Ukrainiens et Ukrainiennes, évidemment, ne sont pas concernés par cette mesure. Ceci dit, la Grande-Bretagne n'est pas la seule à faire deux poids deux mesures sur ce sujet. Le Parlement britannique est par ailleurs sur le point d'adopter une loi qui pourrait autoriser la création de centres à l'étranger pour expulser des migrants le temps que leurs demandes soient traitées, ou encore autoriser les gardes-côtes à repousser hors des eaux britanniques les embarcations de migrants. Alors plusieurs ONG britanniques ont annoncé leur intention d'intenter des recours juridiques, et on va suivre ça de près. En tout cas, que Boris Johnson ose signer un tel accord n'annonce rien de bon. Le cynisme va loin puisqu'il a annoncé, je le cite, « Nous, les Britanniques, avons une compassion infinie, mais une capacité à aider les gens qui ne l'est pas. De notre côté, on va se permettre de douter de la compassion infinie de Boris Johnson. »
Comme de celle d'Erdogan, puisqu'on file en Irak, où la Turquie a à nouveau mené une attaque contre le PKK.
Oui, en tout cas, c'est ce qu'a annoncé la Turquie aujourd'hui, d'avoir lancé une nouvelle offensive aérienne et terrestre contre les rebelles kurdes dans le nord de l'Irak. Le ministre de la Défense turc a donc déclaré que des unités de commando, des drones et des hélicoptères d'attaque avaient lancé l'offensive contre les repères du Parti des travailleurs du Kurdistan, je vais y arriver, le PKK, dans trois régions proches de la frontière turque. Le ministre a annoncé que l'opération allait gagner en ampleur dans les heures et les jours à venir, mais n'a pas précisé combien de militaires étaient impliqués dans l'offensive qui aurait été déclenchée hier soir. Un porte-parole du PKK a confirmé d'intenses combats entre l'armée turque et le HPG, les forces de défense du peuple, qui est donc l'aile militaire du PKK. Il a confirmé une tentative de débarquement de troupes turques par hélicoptère et la tentative d'une avancée terrestre aussi. La Turquie mène de façon régulière des raids contre les positions du PKK dans cette région, où le PKK dispose de bases et de camps d'entraînement, donc dans la région du Sinjar et dans les zones montagneuses du Kurdistan irakien. Le PKK est toujours qualifié de terroriste par la Turquie et ses alliés occidentaux, et c'est bien sûr sous ce prétexte que la Turquie mène ses offensives, alors que le PKK kurde se revendique d'un projet indépendantiste et communiste pour le Kurdistan et a combattu activement les forces réactionnaires de Daesh, par exemple. L'offensive a été lancée deux jours après que le premier ministre du Kurdistan d'Irak, Masrour Barzani, a été reçu par le président turc Erdogan, ce qui laisse entendre que le premier ministre irakien était au courant de l'attaque à venir. Suite à cette rencontre, d'ailleurs, le premier ministre a déclaré être favorable à l'élargissement de la coopération en vue de promouvoir la sécurité et la stabilité dans le nord de l'Irak. Coopération donc avec le gouvernement turc, ce qui n'annonce rien de bon, même si le gouvernement irakien du Kurdistan irakien avait auparavant accusé la Turquie de ne pas respecter l'intégralité territoriale lors de ses offensives contre le PKK. Face à cette nouvelle attaque armée de l'État turc totalitaire et réactionnaire, en tout cas, soutien aux forces kurdes dans la région du Sinjar.
Et on va faire une première pause musicale. Alors ce coup-ci, ce sera vraiment que de la musique, pas de paroles. C'est le groupe Soul Jazz Orchestra. Mais le titre est bien, ça s'appelle Insurrection. Toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, c'est le Canu Info du 18 avril. Vous venez d'écouter le groupe Soul Jazz Orchestra, ça déchire, et ce titre, c'était Insurrection ou Insurrection.
Quel accent!
Et ouais.
Et on passe maintenant à la rubrique National.
Et carrément.
National. Et au National, donc, il y a eu pas mal de manifs ce week-end.
Ouais, il y a eu pas mal de manifs ce samedi 16 avril, il y en avait un peu partout en France. Alors, soit pour faire barrage à Le Pen, donc dans une perspective bien républicaine, mais pas uniquement, hein, il y a aussi des gens qui étaient là contre Le Pen et contre Macron, fort heureusement. Alors, selon le ministre de l'Intérieur, il y a eu 23 000 personnes partout en France, dont 9 200 à Paris, et selon les organisateurs et organisatrices qui étaient représentés plutôt par des collectifs inter-orga, il y avait 40 000 personnes pour Paris et 150 000 un peu partout en France. Alors dans certaines villes, les manifs ont eu de la gueule. À Nantes par exemple, il y avait 3 000 personnes avec des mots d'ordre contre le fascisme et le pouvoir en place. Il y a eu également 3 000 personnes à Lyon, 7 000 à Marseille. À Rennes, la manif était carrément interdite par la préfecture, sans doute en réponse à la manifestation offensive de dimanche dernier au soir du premier tour. Mais malgré tout, plusieurs centaines de personnes ont bravé l'interdiction et ont manifesté à Rennes. Bref, je ne vous fais pas toutes les villes, mais il y avait du monde, certes, mais bien trop peu au vu de l'ampleur du désastre qui nous attend dans le prochain quinquennat. À Paris, comme d'habitude, le pouvoir a montré son visage, sa sale gueule, celui d'une répression violente et disproportionnée avec un déchaînement de violences policières. Certaines vidéos prises par des journalistes ou des manifestants, manifestantes sont à nouveau accablantes, comme celle où l'on voit un CRS mettre une énorme balayette par derrière un handicapé en béquille. Ou des vidéos où l'on voit des flics qui tabassent des manifestants au sol. Ça, c'était histoire de bien finir le quinquennat où l'ordre policier et l'impunité policière règnent déjà beaucoup trop, et histoire d'annoncer le suivant. Ou heureusement quelques notes heureuses, comme les occupations de fac, notamment à la Sorbonne, où 600 étudiants et étudiantes ont voté le blocage d'une partie des locaux mercredi après-midi. Évidemment, dès le lendemain, et c'est dorénavant une pratique récurrente, mener deux concerts entre les présidents d'universités, les rectorats et les préfectures, eh bien les miliciens du capital, les flics sont intervenus pour évacuer les occupants et occupantes. Mais cette occupation a donné des idées ailleurs, comme à Sciences Po Lyon par exemple, ou Sciences Po Paris. Sciences Po Lyon qui a été bloqué vendredi dernier, notamment un certain nombre d'entrées. Et malgré la tentative de déblocage du syndicat étudiant, la cocarde, eh bien ça a tenu. Hein, la cocarde a également essayé d'attaquer l'occupation de Sciences Po Paris, mais ils ont réussi à résister. Alors on espère cette semaine que ces occupations d'université et même d'autres choses vont se multiplier. On en reparlera dans l'agenda tout à l'heure, mais sachez d'ores et déjà que mercredi à l'université Lyon 2 de Bron, il y a une assemblée générale à midi et il y en aura une sur les quais à 18h.
Et toujours en national, mort au travail maintenant.
Oui, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère dans deux affaires qui l'opposaient à Cyril Minard, un pompier qui s'est suicidé en février 2021. Les juges ont estimé que sa dépression, qui l'a mené au suicide, avait bien été causée par ses conditions de travail. Fait assez rare pour en parler et pour décortiquer un peu comment se construit l'acharnement d'une direction contre un pompier qui était en fait très engagé syndicalement. En effet, Cyril Minard, père de deux enfants, était depuis plusieurs années aux prises donc avec une dépression sévère et placé en arrêt maladie depuis septembre 2018. Et il attribuait sa maladie à ses conditions de travail et à l'acharnement de la part de sa direction en raison de son engagement syndical. Il était notamment cofondateur de la section sud du SDIS. Notamment depuis 2013, il rencontrait des problèmes administratifs récurrents pour l'enregistrement de ses arrêts maladie et il se heurtait à sa direction sur les conditions d'exercice de son droit de grève. En gros, lorsqu'il se mettait en grève pour quelques heures, le SDIS lui décomptait son salaire pour l'ensemble de la durée de sa garde de 12 heures. Ça a été le cas 11 fois entre 2014 et 2018. Et d'ailleurs, sur ce point, il avait déjà obtenu une victoire judiciaire devant le même tribunal administratif de Grenoble en 2016. Décision qui avait été confirmée par une cour d'appel et la direction continuait à ne pas appliquer ses décisions et donc à ne pas lui payer toutes ses heures. Le tribunal a donc repris la même décision et enjoint le SDIS à payer à sa famille, puisque lui malheureusement n'est plus de ce monde, les heures de travail réellement effectuées ainsi que 1500 euros de dommages et intérêts pour ce point. De plus, alors que Cyril Minard affirmait que sa dépression était liée à donc ses relations dégradées avec la direction, liées à ses histoires de comptabilisation d'heures, d'enregistrement d'arrêt maladie, etc., le SDIS a toujours nié et en août 2019, il avait été placé en congé maladie ordinaire alors qu'il aurait dû bénéficier des conséquences d'un accident de service, qui est l'équivalent d'un accident du travail chez les fonctionnaires, qui implique des jours d'arrêt mieux indemnisés et sur une durée plus longue. Suite à ce placement en congé maladie ordinaire, il a été placé en disponibilité puisque ses droits à congé maladie ordinaire étaient donc épuisés. Sachant, comme on l'a dit juste avant, qu'il aurait dû être placé dans un autre type d'arrêt maladie qui lui aurait permis d'être indemnisé de manière plus longue. Donc toutes ces décisions-là ont bien été annulées par le tribunal administratif à titre posthume. Et c'est sa femme qui a pris la suite dans l'action judiciaire qui va toucher la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis octobre 2019, au moment où il avait contesté son placement en arrêt maladie classique. La femme de Cyril Minard a décidé de ne pas lancer d'autres actions en justice, mais ce n'est pas le cas de l'intersyndicale qui a saisi l'ordre des médecins contre aussi le médecin-chef du SDIS, en considérant qu'il y a eu un manquement dans la prise en charge de la souffrance au travail de la part de ce médecin, pour ne pas dire une grosse complicité avec la direction. Et cette plainte devrait mener à une plainte au pénal. Plus largement, dans ce service, les représentants du personnel continuent à demander des comptes à leur hiérarchie quant à la gestion des ressources humaines, qu'ils jugent très dures envers les personnels. Selon les décomptes, leurs décomptes, 28 actions en justice ont été lancées depuis octobre 2014 au SDIS de l'Isère et 25 ont été remportées par les salariés. D'ailleurs, un autre pompier en arrêt depuis 7 mois après 34 ans d'exercice témoigne en expliquant que la dégradation de leurs conditions de travail est due au mépris de la base par la direction, qui est inexpérimentée et de plus en plus éloignée du terrain. Pour rappel, la direction des SDIS est assurée par des cadres sapeurs-pompiers et c'est le conseil d'administration qui fixe les orientations, qui décide et qui est composé donc d'élus du département. La présidente du SDIS de l'Isère, c'est Anne Gérin, vice-présidente LR du conseil départemental. Elle a annoncé dans les médias, pour essayer de rattraper le coup de cette double condamnation suite à un suicide, qu'une évaluation du processus de prise en charge des agents en difficulté au sein du service avait été confiée à un cabinet, le cabinet Axiom, alors que les représentants du personnel souhaitaient que l'enquête soit menée par une commission paritaire interne, donc une commission composée à la fois de représentants du personnel et de membres de la direction, et pas par un prestataire extérieur payé par la direction, puisque il considère que ça peut mener à un audit qui n'est pas très neutre, on va dire. Il critique donc aussi la composition du comité de pilotage chargé des relations avec le cabinet d'audit, qui comprend un seul représentant des salariés contre 6 représentants de l'administration, dont le médecin-chef du SDIS, avec qui Cyril Ménard était en conflit. Alors même donc que cet audit a pas mal pu être lissé par rapport à ce qu'il aurait pu être si ça n'avait pas été un prestataire extérieur en relation seulement avec la direction, le rapport final décrit quand même des gros manquements du SDIS dans la gestion de la souffrance au travail en général et dans celle du cas de Cyril Minard en particulier. En tout cas, même si c'est une annulation à titre posthume, il n'en reste pas moins que c'est trop tard pour Cyril Minard et on adresse toutes nos condoléances à sa famille et à celle de toutes les familles de victimes du travail.
Et on continue.
Local.
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 Au local donc, avec un petit reportage dont tu vas nous parler.
Oui, voilà, donc mercredi dernier, l'association Cabéria, qui est l'association de santé communautaire des travailleuses et travailleurs du sexe de Lyon, organisait un rassemblement sur la place de la Comédie pour fêter, entre guillemets, l'anniversaire de la loi du 13 avril 2016, dite loi de pénalisation des clients. Et on y avait laissé traîner un petit micro qu'on a tendu, on écoute ça tout de suite.
Ouais, on écoute ça tout de suite, j'étais pas prêt, hop.
Association Cabéria, moi je suis juriste dans l'association.
Oui. Animateur prévention à l'association Cabéria.
Donc c'est l'anniversaire de la loi du 13 avril 2016, donc c'est la loi qui est dite de pénalisation des clients. Donc dans cette loi, en fait, on a inversé la charge pénale qui pesait originellement sur les travailleuses du sexe pour la mettre sur les clients, sauf que les conséquences reposent toujours en fait sur les personnes concernées. La loi, elle prétendait protéger les travailleuses du sexe pour... Un peu en les victimisant, en considérant que c'était elle qui était victime et du coup c'était pas logique qu'elle soit pénalisée, jusque là c'est plutôt logique. Mais en inversant la charge pénale, en fait, elle avait pour objectif justement de supprimer en quelque sorte la prostitution, dans le sens où sans client, il n'y a pas de travailleuse du sexe. Et de considérer que, vu que les travailleuses du sexe ne sont pas consentantes à exercer leur activité, du coup, les clients étaient en quelque sorte des violeurs, quoi. Donc, du coup, nous, ici, on est là pour lutter contre cette loi. Déjà, pour considérer aussi que les travailleuses du sexe, ça existe. Elles peuvent être consentantes à leur activité. Quand elles ne le sont pas, ça s'appelle la traite des êtres humains. Ça ne s'appelle pas la prostitution, ça ne s'appelle pas le travail du sexe. C'est quelque chose contre lequel on lutte aussi. Mais voilà. On voit aussi toutes les conséquences qu'elle peut avoir sur les personnes concernées. La raréfaction des clients fait que du coup leur condition de vie est largement impactée. On voit dans les conditions de travail aussi, il y a beaucoup de déplacements sur Internet, en périphérie. Ce qui fait que du coup les personnes gagnent beaucoup moins d'argent, ont des conditions de travail très dures. Elles sont chassées par la police dans beaucoup d'endroits de Lyon à cause des arrêtés municipaux. Elles sont forcées de se cacher pour avoir des clients parce que les clients ont peur de venir vers elles. Au final, on voit qu'en fait, elles sont toujours plus pénalisées que les clients, dans le sens où les arrêtés municipaux leur mettent beaucoup plus de PV qu'ils verbalisent les clients. Donc aujourd'hui, on est toujours dans la pénalisation des personnes prostituées, même si c'est le client qui est pénalisé. Nous, de notre expérience de terrain en tant qu'association, on constate toujours qu'il y a des verbalisations déjà, donc contre lesquelles on lutte, mais aussi que lorsqu'il y a des agressions dans des lieux de prostitution, la police ne vient pas très rarement ou alors met du temps à venir. Donc effectivement, on voit toujours autant de violence, voire plus, et sans forcément une intervention plus efficace de la police. On a rencontré la mairie cette année, justement, pour les arrêtés municipaux. On constate juste que la promesse faite par les écologistes de supprimer les arrêtés municipaux n'a pas encore été faite, puisque les arrêtés municipaux ont été suspendus et n'ont jamais été abrogés. Donc voilà, on attend que justement la promesse soit faite et qu'ils abrogent effectivement les arrêtés municipaux qui sont encore en vigueur. Et surtout que ils forment leurs policiers en fait, genre vraiment, qu'ils forment leurs policiers à recevoir les plaintes des personnes, à ne pas stigmatiser les personnes quand elles viennent. Qu'on puisse au moins obtenir gain de cause sur quelques affaires, au moins ça quoi. Mais en fait, nous ce qu'on veut, c'est que les personnes puissent accéder aux droits communs, qu'elles arrêtent d'être soumises à un droit spécifique. Donc en fait, l'idée c'est abroger cette loi et c'est de faire retomber ces personnes dans le droit commun, de considérer que le travail du sexe est un travail, que quand c'est de l'exploitation, c'est de l'exploitation, c'est de la traite. Mais que tant que le travail du sexe ne sera pas reconnu comme un travail, les personnes ne pourront pas accéder à leurs droits sociaux, ne pourront pas accéder à un titre de séjour, à des droits au séjour en France. Et ça, c'est ça les maintient dans une situation qui est extrêmement précaire.
Loi du 13 avril 2016, toujours autant tuées, agressées, précarisées. Merci, on n'a plus peur, on est morte. Joyeux anniversaire.
Donc vous venez d'écouter une juriste de l'association Cabiria sur la loi du 13 avril 2016. Un petit complément d'information, donc cette loi instaurée sous Hollande prévoit aussi un parcours de sortie de la prostitution. Ce parcours part du principe que les travailleurs et travailleuses du sexe ne peuvent pas être consentants, qu'ils et elles sont donc des victimes et qu'il faut les aider en les insérant dans la société par d'autres moyens. Comme la juriste de l'association le précise, ça part d'une conclusion un peu fausse puisque la prostitution n'est pas exactement la traite des êtres humains. Mais même si on accepte cette logique de victimisation, le parcours est un peu problématique puisque pour en bénéficier, c'est soumis à l'arrêt immédiat des activités de travail du sexe en échange d'un revenu. Sauf que ce revenu est fixé à 366 € par mois, donc encore moins qu'un RSA, et ne permet de toute évidence pas de vivre, et ne permet donc pas d'arrêter le travail du sexe pour les personnes qui, jusque-là, étaient dans ce domaine. Ce parcours est d'ailleurs limité à 6 mois durant lesquels les personnes qui n'avaient pas de titre de séjour en France et acceptent de ne plus se prostituer en obtiennent un, donc temporaire, de titre de séjour avec permis de travail, dans l'idée qu'elles puissent se reconvertir. Dans les faits, c'est très court, 6 mois, pour effectuer une reconversion. Et surtout, il n'y a rien de prévu au bout de ces 6 mois. Et les personnes sans papier qui entrent dans ce parcours risquent à la sortie une simple expulsion. Ce qui laisse donc douter sur les intentions affichées par la loi de venir en aide aux travailleurs et travailleuses du sexe quand on voit le peu qui est fait pour les aider. Il y avait un complément d'information.
Je crois que ça peut être renouvelé une fois, les 6 mois. Mais il y a aussi un nombre de places limitées. pour ce fameux parcours de sortie de la prostitution, qui passe obligatoirement par des associations habilitées par l'État, qui peuvent avoir des pratiques et des idéologies effectivement pas tout à fait...
Abolitionniste,
paternaliste pour les travailleuses du sexe.
Et pour le coup, Kabiria n'est pas habilitée. Mais pour continuer à compléter un peu, concrètement sur le terrain, les travailleurs et travailleuses du sexe ont plutôt été mis en danger par l'application de la pénalisation des clients. Comme ces derniers prennent soi-disant un risque, ils négocient les tarifs, le port du préservatif et sont en position d'imposer des pratiques sexuelles qui n'étaient pas forcément prévues par le travailleur ou la travailleuse du sexe à la base. Les passes se déroulent dans des lieux de plus en plus cachés, ce qui isole les travailleurs et travailleuses qui ne peuvent plus compter sur une solidarité entre collègues en cas d'agression, et les agressions, elles en font de plus en plus souvent l'objet. Les rapports avec la police, d'ailleurs, malgré la pénalisation des clients, sont plutôt hostiles pour les travailleurs et travailleuses, puisque celles-ci sont régulièrement contraventionnées. Si elles se retrouvent dans des zones d'exclusion par arrêtés municipaux, dont la juriste de Cabiria vous parlait, ce sont des arrêtés municipaux instaurés sous Gérard Collomb à Lyon. Et en 2020, il y a eu 1280 prostituées qui ont eu une amende pour avoir stationné leur camionnette dans des endroits interdits à Lyon, et seulement 31 clients ont été verbalisés. Et puis donc, vous l'avez entendu, les Verts, actuellement à la mairie, n'ont toujours pas abrogé ces arrêtés municipaux.
Eh bien, nous allons passer, pour terminer cette émission, à notre traditionnel agenda.
Et à l'agenda, on commence par demain, mardi 19 avril, il y a un atelier d'accompagnement à l'auto-observation gynécologique organisé par le GROG, un collectif informel de personnes intéressées par les questions d'autogynécologie. Il faut les contacter par mail à le GROG de Lyon, donc le GROG c'est grog@protonmail.com. L'atelier aura lieu à 19h à Lyon 7e et l'adresse sera communiquée après inscription.
Mercredi, si vous êtes étudiant ou étudiante, on vous suggère fortement d'aller sur le campus de Bron, campus Porte des Alpes, à midi, puisqu'il y a une assemblée générale étudiante. Je vous lis le texte, une partie du texte. « Face à la situation et le non-choix que nous offre le second tour de l'élection présidentielle, organisons-nous et mobilisons-nous pour dégager l'extrême droite et ses complices. Viens discuter de la situation et d'un plan de bataille pour la suite en assemblée générale. » Donc c'est à midi, mercredi, sur le campus de Bron.
Et paraît-il qu'il y en aurait une également à 18h sur le campus des Quais. C'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure. Voilà, donc à vérifier, mais renseignez-vous si vous ne pouvez pas aller à celle de midi.
Et puis samedi 23 avril, il y aura une marche pour la fierté lesbienne à Lyon. Le mot d'ordre, c'est « Lesbienne contre l'extrême droite » et c'est organisé par la collective Lesbienne contre le patriarcat. Donc le rendez-vous est à 15h au départ de la place Louis Pradel, samedi 23 avril.
Et puis bah, dimanche, c'est quelle journée formidable ce dimanche 24 avril. On saura si on se prend 5 ans de Macron ou 5 ans de Le Pen. Alors on vous invite, et on n'est pas les seuls, à sortir dimanche soir pour exprimer notre colère, votre colère. Alors il y a différents appels, en tout cas nous on vous invite à celui-là qui est donc place Colbert dans les pentes de la Croix-Rousse, juste à côté de nos locaux, à 20h45, et on vous invite à venir dans ce coin-là. De toute façon, il devrait s'y passer un certain nombre de choses pour exprimer notre colère, qu'on commence un peu à s'organiser dès maintenant face à ce qu'on va se prendre dans la tronche pendant 5 ans.
Et on arrive à la fin de ce Cagnot Info du 18 avril 2022. On vous souhaite une bonne semaine et on vous dit à lundi prochain.
À dimanche d'abord.
À dimanche d'abord et puis à lundi, on pleurera un petit peu. Allez, salut. Mais non, c'est pas ça.
C'est Vanzetti. Bonne écoute des bandes continues de Radio Canu jusqu'à la prochaine émission en direct.
La vie, la santé et l'amour sont précaires. Pourquoi le travail échapperait-il à cette loi ?
C'était Laurence Parizeau, présidente du MEDEF.
On te prend, on te sort, on te jette, on te vire.
On te prend, on te sort, on te jette, on te vire.
Tu travailles pour des miens. miettes, en plus il faut sourire.
Tu travailles pour des miettes, en plus il faut sourire. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Y'a pas ça, y'a pas ça.
La sécu, la retraite, bientôt des souvenirs.
La sécu, la retraite, bientôt des souvenirs.
Les loyers, c'est la fête, mais pas pour ta tirelire.
Les loyers, c'est la fête, mais pas pour ta tirelire. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Y'a pas ça, y'a pas ça, y'a pas ça, pas ça, y'a.
Disent de bien se tenir.
Les télé, les matraques disent de bien se tenir.
C'est la peur qui remplace les rêves d'avenir.
C'est la peur qui remplace les rêves d'avenir. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Y'a pas ça, y'a pas ça, y'a pas ça, pas ça, y'a. Y'a pas ça, y'a pas ça, y'a pas ça.
On surveille tes soupirs.
On te fiche, on te filme, on surveille tes soupirs.
Orwell dans sa tombe n'a pas fini de rire.
Orwell dans sa tombe n'a pas fini de rire. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Y'a pas ça, y'a pas ça, y'a pas ça, pas ça, y'a. Y'a pas ça, y'a pas ça, y'a pas ça.
Sans papier, sans logement, juste bon.
Sans papier, sans logement, juste bon à offrir.
Tes deux bras, ta sueur pour nos villes à construire.
Tes deux bras, ta sueur pour nos villes à construire. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Y'a pas ça, y'a pas ça, y'a pas ça, pas ça, y'a. Y'a pas ça, y'a pas ça, y'a pas ça.
Mort ton voisin si tu veux.
Compagnie capitalo est dégueulasse. Existe la bande FM qui balance de la mélasse, du rabâchage de chansons, du détournement d'intention, de l'abrutissement calculé pour t'abêtir, te piquer ton blé. Les radios privées rayonnées, les malhonnêtes du CSA, du dumping de l'influence et du fric de scélérat. Et c'est toutes les radios locales qui finissent par se trouver mal. Elles se font piquer leurs fréquences et les lobbies est à leur pitance. Énergie et compagnie, c'est l'hérésie des mélodies. Énergie et compagnie, c'est l'hérésie des mélodies. Les emplois sur ces radios sont précaires et sans protection. Clause de non-concurrence, licenciement et intoxication sont les mots d'ordre des gangsters qui viennent piller ton tunnel. Du sport des tubes pourris, l'uniformisation est un souci. Ces radios sont à la fois producteurs et diffuseurs. À force de gober leurs produits, l'auditeur devient acheteur. Puissantes, elles écrasent et s'imposent, compressent et unifient les sons. Robinet de disques sans émission, l'uniformisation du son. Énergie et compagnie, c'est les résines et mélodies. Énergie et compagnie, c'est les résines et mélodies. Sont fabriqués pour vendre.
De l'ère coloniale, les comptoirs idéologiques de l'ère atomique.
Encore une fois, mon stylo pleure à l'instar de l'encrunel, le suceur, une mort violente subite tirée par nos dirigeants voleurs. Ville vilain, voleur, voleur, voler notre dernière goutte de sueur. Voilà le visage sombre et lugubre de l'Afrique à 7 heures. Seconde après seconde, minute après minute, heure après heure, l'Afrique se meurt, tuée, pillée par nos dirigeants collaborateurs. C'est le seul mot pour qualifier ces adorateurs de Satan. Pourquoi vider notre sang, se comporter si avidement? Profond intérêt personnel et national, c'est décevant. Je suis déçu, le sous le seul cynisme de la pauvreté, c'est indécent. Ils vendent le pétrole du Congo aux néo-colons qui organisent nos guerres afin de mieux gérer les filons. Au Sénégal, ils vendent l'eau, la télécom, le courant, t'es au courant, c'est courant. Notre économie, tu peux la comparer à un vieil au mourant. Tué par les mêmes, les héritiers qui s'entretueront pour l'héritage, qui te feront croire que c'est pour le bien de la famille, du clan. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. C'est encore ce système qui fait souffrir tous les descendants de Cam, géré par les propres fils de Cam, dirigé par les enfants de Cam. On a fait le tour de la question, voici la situation. Si on veut une évolution, il nous faut une putain de révolution. Révolution des mœurs, de la mentalité, de la morale, du comportemental, sinon les armes parleront et c'est fatal. Je crois qu'il y a assez eu de guerre, trop de gosses sont morts amers, en se demandant pourquoi tant de malédictions sur la terre mère. Déjà, ils nous imposent des systèmes politiques, forment l'élite qui le rend cynique. Quand on donne au pouvoir, on t'y maintient, tout sera l'unique. Tant que tu nous vends le pétrole, le café, le cacao, tu seras en haut. On va bosser sur ta dette, toi y'a très beau négro. On va te dire toi en prison jolie à Paris, la France, la délivrance, beaucoup de wari wari. Toi signé papier du blanc, pas le cadeau du chef blanc. Toi très beau négro.
Merci ma commandeur. Tu comprendras quand tu seras grand, le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. SOS, SOS, Awali lance un SOS. SOS pour ces terres qui se meurent et ses fils en détresse. SOS pour toutes nos matières premières, pour toutes nos richesses. SOS pour que nos enfants ne vivent plus tout ce stress. Yes, make God bless Africa qu'on se sorte du caca. L'image est sale et puante, mais c'est la seule qui reflète le cas. Africa, on t'auscute, mais ton diagnostic est délicat. La seule solution, c'est une révolution dans tous les cas. J'aimerais que ce texte soit une lettre adressée à tous nos présidents. Qu'ils comprennent que les jeunes paniquent et que le boom est imminent. Pensez à nous, pensez à vous, pensez à ceux qui viendront après nous. Pensez, agissez, sinon on le fera nous, à la limite, l'argent volé planqué dans vos comptes en Suisse. Investissez-le dans vos pays, faites bosser vos fils, méfiez-vous. Méditez le syndrome Mobutu, personne n'est à l'abri. C'est bon, le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner.
Si nous ne prenons garde, nous risquons de perdre et la liberté de l'homme et l'indépendance de notre continent.
102.2, la plus enragée, la plus engagée des radios. On vient d'écouter la compagnie Joli Môme avec un morceau qui s'appelait Yabasta. Ensuite, on a écouté Sébastien Guerrier et les Auvergnats du groupe Sabayo avec Ondes radiophoniques. Et on a terminé par le chanteur sénégalais Awadi avec un morceau qui s'appelait Patrimoine.